Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères et bien chers amis, je vous rappelle que nous sommes dans le supplément de la Somme théologique de Saint Thomas, supplément préparé par le secrétaire, frère Reginald, secrétaire de Saint Thomas, après sa mort, après la mort de Saint Thomas, à partir de textes, surtout dans ses commentaires sur les sentences. Donc des textes de jeunesse de Saint Thomas d'Aquin. Vous voyez qu'il y a des textes magnifiques, bien qu'ils soient des textes plus, moins matures, je dirais, moins matures que les textes de la fin de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin. Alors nous en sommes donc dans le supplément à la question 4 du temps de la contrition. Donc savoir si cette contrition doit durer toute la vie, s'il est expédient de pleurer continuellement ses péchés, et est-ce qu'après cette vie, les âmes séparées ont encore la contrition de leurs péchés. Alors nous commençons par l'article 1 qui est très important. Supplément, question 4, article 1. La contrition doit-elle durer toute la vie? Voyons ce que dit un petit peu saint Thomas sur ce sujet, qui est un sujet très pratico-pratique. L'homme, dit saint Thomas, doit toujours avoir la douleur des péchés pour en avoir le pardon. Ça veut dire quoi? Il explique d'une façon magnifique. Dans la contrition, il y a une double douleur. Une douleur de raison, qui est la détestation du péché qu'on a commis, et une douleur de sensibilité, qui est la conséquence de la première. Ces deux douleurs doivent durer tant que dure l'état de la vie présente. Car tant qu'un voyageur est en chemin, il regrette les obstacles qui empêchent ou retardent son arrivée au terme. Bon. Une fois qu'on est arrivé au terme, c'est autre chose. Une fois que vous êtes arrivé au paradis, c'est plus le lieu pour regretter ses péchés, parce qu'on est arrivé. Le retard que le péché passé a mis à la course de notre vie vers Dieu demeure, puisque nous ne pouvons pas retrouver ce temps de péché qui aurait dû être employé à courir. C'est-à-dire Dieu est prêt à pardonner les péchés passés du moment qu'on les regrette, mais il ne peut pas faire que ces péchés n'aient pas été commis. Il faut donc que pendant tout le cours de cette vie, la contrition demeure en tant qu'elle est une détestation du péché. Prenons un exemple pratique pour expliquer la chose. Imaginez un homme marié qui a été infidèle à son épouse. Bon, c'est un accident, il regrette sa faute, l'infidélité à son épouse. L'épouse est au courant, il sait que son mari a coupé complètement avec cette femme, cette seconde femme, qu'il regrette son péché. Son mari est allé se confesser. Il a fait plusieurs confessions sur le sujet, il a changé de vie, il a enlevé les occasions prochaines volontaires de péché mortel, très bien, mais il faut qu'il garde constamment en sa mémoire, si vous voulez, ou plus exactement en son intelligence et sa volonté, le regret du péché commis. Il faut qu'il, de façon habituelle, il regrette ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut y penser tout le temps, et ça ne veut surtout pas dire qu'il faut que son épouse lui rappelle toutes les 5 minutes. C'est une énorme erreur. C'est fini, le péché est pardonné. Mais il faut constamment garder le regret de la douleur faite à Dieu et faite aussi à son épouse, faite à son épouse ici-bas sur la terre pour une personne mariée. Donc, Cette douleur sensible voulue comme peine doit demeurer par la volonté. Saint Thomas explique que l'homme, en effet, ayant mérité en péchant une peine éternelle, et péché contre un Dieu éternel, doit du moins en garder la douleur pendant toute son éternité d'homme, c'est-à-dire pendant toute la vie d'ici-bas, quand la peine éternelle a été commuée en peine temporelle. Donc Dieu, déliant l'homme de la faute et de la peine éternelle, il faut garder le lien d'une perpétuelle détestation du péché. C'est quelque chose d'important à comprendre. Il ne faut pas croire que le péché, c'est un petit truc, on pardonne, Dieu pardonne, on va se confesser, puis on n'en parle plus, c'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est vrai d'un certain côté, mais il faut garder le regret d'avoir offensé Dieu dans le passé. On peut donner une autre comparaison, cette fois-ci positive. Quand un époux aime son épouse, il doit l'aimer de façon générale, constamment, même s'il ne le lui dit pas, ne lui manifeste pas par des actions, par des signes sensibles, toute la journée. Il faut qu'il ait habituellement l'amour de son épouse. De la même façon, si j'ai offensé le bon Dieu, il faut que je garde habituellement en moi une haine habituelle du péché passé, même si ce péché est déjà pardonné. Ils disent une formule un peu bizarre. L'homme ayant mérité, en péchant une peine éternelle, à pécher contre un Dieu éternel, doit du moins en garder la douleur pendant son éternité d'homme. Ce qui veut dire, pendant toute la vie ici-bas. C'est-à-dire, tant qu'on est ici-bas dans le temps, il faut garder cette peine du péché. Alors, il y a une autre explication qu'il donne que j'aime bien. Il dit, une fois que le péché est remis quant à la faute, il n'y a plus lieu d'en avoir honte puisque le péché est disparu. Mais il y a place encore pour la douleur qui n'a pas seulement pour objet ce qu'il y a de honteux dans la faute, mais aussi ce qu'elle a de nuisible. Donc, la crainte servile que la charité chasse est en opposition avec la charité à raison de sa servilité qui s'inquiète surtout de la peine. La douleur de contrition, contraire à sa cause dans la charité, et donc point parité. Puis saint Thomas va préciser, même quand par la pénitence le pécheur revient à son ancien état de grâce et se libère de toute dette de peine, il ne revient jamais à la dignité première de son innocence, et par conséquent il reste toujours en lui quelque chose de son péché passé. Facile à expliquer, je vous l'ai déjà expliqué souvent, il y a deux voies pour aller au ciel, la voie d'innocence et la voie de pénitence. Une fois que j'ai commis mon premier péché grave, la voie d'innocence m'est définitivement fermée. J'ai perdu l'innocence. C'est fini, c'est terminé, je l'ai définitivement perdu. Et même si je vais me confesser, même si je regrette mes péchés, même si je prends les mesures pratiques pour ne pas recommencer, j'ai perdu définitivement l'innocence que j'avais. Et je dirais, Dieu lui-même ne peut pas me rendre cette innocence, puisque Dieu ne peut pas faire que quelque chose qui s'est fait dans le passé n'ait pas existé. Bon, vous pouvez pas, prenons un exemple tout simple avec un point historique, vous ne pouvez pas faire que Napoléon n'ait pas existé. Napoléon a existé. De même, une personne qui a commis des fautes graves contre le bon Dieu ne peut pas faire que ces fautes n'aient pas été commises, même si elles ont été pardonnées. Donc, la douleur de contrition répond un mouvement d'aversion dont la faute reçoit un certain caractère d'infini. De là vient que la contrition doit toujours durer. Il n'y a rien d'irrationnel à ce qu'elle demeure alors que la satisfaction est terminée. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut garder pleurer toute la journée, qu'il faut constamment faire une pénitence physique qui nous a été donnée par le prêtre au moment de l'absolution. Non, j'ai fait ma pénitence, le péché a été pardonné, grâce à Dieu. Je commence maintenant une nouvelle vie, mais la contrition de ce péché passé doit demeurer, même si la satisfaction est terminée. Ensuite, il va se poser la question, est-ce qu'il faut pleurer continuellement le péché ? Et là, c'est la béatitude des pleurs. Bienheureux ceux qui pleurent. Que le pénitent, dit saint Augustin, pleure toujours et se réjouit de sa douleur. Il est bon donc d'entretenir continuellement notre douleur autant que possible. Et encore une fois, il faut être équilibré par la vertu de prudence dans tout ce domaine. La contrition étant un acte de la vertu de pénitence, en tant qu'elle est un certain déplaisir dans la volonté, on ne peut pas trop en avoir ni quant à l'intensité, ni quant à sa durée, sauf au temps où cet acte de vertu empêcherait l'acte d'une autre vertu plus nécessaire à ce moment. D'où il suit que plus un homme peut se tenir continuellement ses actes de déplaisir, mieux il s'en trouve, pourvu qu'il va en temps voulu aux actes des autres vertus, selon qu'il en a devoir. Et il ne faut pas que le fait que je pleure mes péchés soit pour moi un obstacle à la pratique de mon devoir d'État. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, saint Thomas se pose la question, c'est l'article 3, la question 4, de savoir si les âmes, après cette vie, ont-elles encore la contrition de leurs péchés. Alors, voilà ce que dit saint Thomas, dans cette partie importante. Les âmes qui, après cette vie, sont reçues dans la patrie, ne peuvent avoir la contrition, puisque la plénitude de leur joie en exclut toute douleur. Donc, une âme qui est au ciel ne peut plus avoir de contrition pour ses péchés, puisqu'elle est dans un domaine complètement différent. Les damnés qui sont en enfer n'ont également aucune contrition, parce que tout en ayant la douleur, ils n'ont pas la grâce qui donne à cette douleur sa forme de contrition. Pourquoi ? Parce que l'âme qui est en enfer, comme celle qui est au ciel, elle n'est plus dans le temps. Elle est dans l'éternité, donc elle ne peut plus changer. Donc le démon garde de façon permanente, éternelle, cette haine de Dieu qu'il a eue à cause de son péché. Du péché des anges, péché de révolte, quand il a dit en suivant Lucifer, je ne servirai pas. Quant aux âmes qui sont au purgatoire, il y a trois possibilités, le ciel, les damnés et le purgatoire. Quant aux âmes qui sont au purgatoire, elles ont bien une douleur à laquelle la grâce donne sa forme, mais qui n'est pas méritoire, parce qu'elles ne sont plus en état où l'on mérite. C'est dans cette vie seulement que peuvent se trouver réunis ces trois éléments de la contrition. D'accord ? Donc, ici-bas, on a le principe de la contrition, qui est la douleur, la forme de la contrition, qui est un acte de vertu affirmé par la grâce, et l'efficacité de la contrition, c'est-à-dire que cette contrition devient un acte méritoire, sacramentel, donc satisfactoire. Donc, une fois qu'on est au purgatoire, quand on est au purgatoire, avant d'aller au ciel, le purgatoire est un lieu de passif, si vous voulez. On ne peut plus faire quoi que ce soit, on souffre passivement pour se purifier. C'est pour ça que saint Thomas, suite d'ailleurs de ce qu'il vient de dire ici, donc saint Thomas pense que les âmes du purgatoire ne peuvent pas plus prier pour nous. On peut prier pour les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire peuvent être aidées par voie de suffrage, mais une âme du purgatoire ne peut pas prier pour nous parce qu'elle est en état de passivité totale. Mais une fois qu'elle est au ciel, elle n'oubliera pas ses bienfaiteurs, ceux qui ont prié pour elle et qui ont raccourci par ses prières le temps qu'elle devait passer au purgatoire. Voyons maintenant les effets de la contrition. Donc c'est le supplément, question 5. La rémission du péché est-elle l'effet de la contrition ? Donc le vrai sacrifice pour Dieu, c'est le psaume 50, c'est l'esprit contrit. La contrition du cœur est le sacrifice qui nous délie de nos péchés. Donc c'est l'amour désordonné dans le cœur qui nous fait commettre le péché. Ce sera donc la douleur causée par l'amour ordonné de la charité qui nous déliera du péché. C'est ainsi que la contrition efface le péché. Donc la contrition efface le péché en rétablissant un ordre avec le bon Dieu. Le péché introduit dans l'âme un désordre, une révolution. Donc la contrition va rétablir l'ordre entre l'âme et Dieu et donc détruire donc ce désordre. La contrition, dit saint Thomas, peut être considérée de deux façons, ou comme partie du sacrement, comme acte de vertu. Et des deux façons, elle est cause de la rémission du péché, mais pas de la même manière. En tant que partie du sacrement, elle opère la rémission du péché par manière de cause instrumentale. Mais en tant qu'acte de vertu, elle opère comme cause matérielle de la rémission du péché. Je dirais qu'avec le sacrement, les choses se font plus facilement. C'est plus facile d'obtenir le pardon de nos péchés en utilisant directement le sacrement que le bon Dieu a préparé précisément pour le pardon des péchés, à savoir le sacrement de pénitence. Mais en pratiquant l'acte de la vertu de pénitence, il est évident qu'on prépare en quelque sorte le chemin pour la rémission des péchés. Donc Dieu seul, dit saint Thomas, est cause efficiente principale de la rémission du péché, mais il peut y avoir de notre part une causalité dispositive et même aussi sacramentelle, puisque les formes des sacrements sont des paroles que nous prononçons et qui ont la puissance instrumentale d'introduire en nous la grâce qui remet les péchés. Lorsque le prêtre nous donne la formule d'absolution, que j'ai les dispositions nécessaires pour recevoir cette formule d'absolution pour complètement, quand il dit « Je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », nos péchés sont directement effacés par Dieu en utilisant la puissance qu'il a donnée, que Dieu a donnée au prêtre d'effacer les péchés. Alors, là, saint Thomas creuse un peu. La contrition peut-elle enlever toute dette de peine? Dans certains cas, oui. L'exemple classique, c'est celui que va suivre saint Thomas, c'est l'exemple de saint Dismas. Quand Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a dit à saint Dismas, au bon larron, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis, eh bien, il a immédiatement effacé non seulement les fautes de ce pécheur, mais aussi toutes les peines, et va le prendre directement au paradis. Par les actes extérieurs, l'homme est libéré de la faute et de la peine. Il doit donc en être de même de ce sentiment de cœur qu'est la contrition. Nous en avons d'ailleurs un exemple dans le bon larron, auquel notre Seigneur Jésus-Christ a dit pour un seul acte de pénitence, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Parce qu'il a vu, Dieu a vu dans l'âme de saint Dismas, la foi, l'espérance et la charité. Donc, il y a la foi, parce qu'il a fait un acte de foi en disant bien, vous avez le pouvoir de me pardonner, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Donc vous êtes un roi avec un royaume, c'est un acte de foi, d'espérance, parce que c'est dans le futur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume, et un acte de charité, c'est un acte d'amour du bon Dieu. Alors, du côté de la charité qui cause des plaisirs, l'intensité de la contrition, si vous voulez, peut avoir une telle intensité, tellement grande que la contrition qui en est la conséquence mérite non seulement le pardon de la faute, mais aussi la libération de toute peine. C'est le cas, par exemple, de certaines confessions très bien préparées. Souvent, Dieu merci, c'est le cas des confessions de retraite. Parce qu'on donne, je vous l'ai déjà dit, 2 jours et demi de préparation avant les confessions générales des retraites. On recouvre tous les péchés de la vie ou une partie de la vie. Et donc, il y a un grand, grand amour du bon Dieu qui a germé dans l'âme du retraitant par toutes les méditations de la première partie de la retraite, première semaine. Et donc, en général, cette contrition est tellement forte, l'amour du bon Dieu est très fort, que Dieu aidant, eh bien, l'absolution du prêtre qui est donnée au moment des confessions, de la confession générale, chacun en privé accuse tous ses péchés pour une partie de sa vie, toute sa vie, et bien cette contrition est tellement forte que cette absolution va détruire non seulement les fautes, mais aussi les peines temporelles des fautes déjà pardonnées, c'est-à-dire les peines du purgatoire. Bon. Du côté de la douleur sensible qui excite la volonté dans la contrition, cette douleur étant elle-même une peine, elle peut être si grande qu'elle suffise à effacer à la fois la faute de peine et sa dette de peine. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc le degré d'effacement, si vous voulez, des peines du purgatoire après une bonne confession dépend du degré de charité que j'ai. Le pénitent, dit saint Thomas, ne peut jamais être certain que sa contrition soit suffisante pour la rémission de la faute et de la peine, et par conséquent, il est tenu de se confesser et de satisfaire. Il est d'autant plus tenu que la contrition n'est pas vraie si elle n'inclut pas la résolution de se confesser. Donc quelqu'un ne pourrait pas dire « Ah ben j'ai commis des fautes graves, mais j'ai eu un acte de contrition parfaite. » Et donc puisque la belle fille m'indique qu'un acte de contrition parfaite efface tous les péchés, donc je n'ai pas besoin de me confesser. Non, vous avez besoin de vous confesser quand même. Bon. Si vous ne pouvez pas vous confesser parce qu'il n'y a pas de prêtre, à ce moment-là, demandez au bon Dieu qu'il vous donne la grâce d'un acte de contrition parfaite qui efface le péché. Mais le moyen normal pour le bon Dieu d'effacer les péchés, c'est par l'absolution sacerdotale. Donc, saint Thomas va préciser, la douleur de la contrition est finie quant à son intensité, comme aussi est finie la peine due au péché mortel. Mais cette douleur de contrition a aussi une vertu infinie de par la charité qui lui donne cette forme. sa forme. Et à ce titre, elle a suffisamment de valeur pour effacer la faute et la dette de peine. Donc tout dépend du degré de charité que j'ai. Il faut toujours essayer d'obtenir cette grâce à chaque confession, d'effacer toutes les peines temporelles des péchés déjà pardonnés. C'est pour ça aussi, c'est très important, en fin de retraite, je vous l'ai déjà dit aussi, le prêtre donne une bénédiction spéciale qu'on appelle la bénédiction papale, et à laquelle est attachée la grâce d'une indulgence plénière. Une indulgence plénière qui, comme son nom l'indique, si la personne est dans les propres de bonnes dispositions, peut effacer toutes les peines temporelles des péchés déjà pardonnés, c'est-à-dire toutes les peines du purgatoire. Article 3, la question 5. Une faible contrition suffit-elle à la rémission des grands péchés? Donc, la grâce sanctifiante, à n'importe quel degré, efface tout péché mortel. Pourquoi? Parce que grâce sanctifiante et péché mortel sont incompatibles. Quelqu'un ne peut pas être en état de grâce et en même temps avoir un péché mortel sur la conscience. C'est impossible. Donc, s'il est en grâce sanctifiante, il est en état de charité, et donc il n'y a pas de péché mortel en lui. Or, toute contrition est vivifiée par la grâce sanctifiante. Si petite qu'elle soit, elle efface donc toute faute. Donc, si quelqu'un est en état de grâce, qu'il a la vertu de charité en lui, la grâce sanctifiante, toutes ses fautes sont effacées. Même s'il y a des très grands péchés, le bon Dieu, dans sa miséricorde, pardonne puis oublie. Alors, dans la contrition, il y a donc une double douleur, dit saint Thomas. Oui, comment il explique les choses? Il y a d'abord une douleur de raison, qui est le regret du péché commis, et cette douleur peut être si faible qu'elle ne suffise pas à constituer une vraie contrition. Ce serait le cas si le pénitent regrettait moins son péché qu'il ne doit regretter d'être séparé de sa fin dernière. C'est ainsi que l'amour de Dieu peut être si faible qu'il n'y ait pas assez pour constituer le véritable amour de charité. Il y a aussi dans la contrition une autre douleur, la douleur de sensibilité. La faiblesse de cette douleur n'empêche pas la vraie contrition, dit saint Thomas, parce qu'elle n'est pas essentielle à la contrition. Il y est jointe comme par accident, et de plus, elle n'est pas pleinement en notre pouvoir. Il faut donc dire que si faible que soit la douleur, pourvu que ce soit une douleur de vraie contrition, elle efface toute faute. C'est pour cela que dans le catéchisme du Concile de Trente, dans la partie sur la confession, il est bien dit qu'une contrition doit être surnaturelle et universelle, mais aussi doit être suprême. Suprême, ça veut dire que le degré de contrition que j'ai parce que j'ai perdu le bon Dieu doit être supérieur à un degré de contrition que j'aurais si j'avais perdu une chose matérielle, même importante. Donc la contrition, la douleur, doit être interne, souveraine, universelle et suprême. Si toutefois un autre pénitent n'a pour un autre un péché plus grand qu'une douleur égale à celle du premier pour un moindre péché, il suffira encore au pardon de la faute. Dieu, à partir du moment où il met sa grâce sanctifiante dans une âme, efface tous les péchés. Mais en fonction du degré de charité de ce pénitent, Dieu pardonnera plus ou moins la peine temporelle, c'est-à-dire la peine du purgatoire. Passons à la question 6, la nécessité de la confession. Donc, la confession est-elle nécessaire au salut? C'est le premier article, donc article 1 de la question 6 du suppléant. Alors, voilà ce que va dire saint Thomas d'Aquin. Il va citer Boèce. Si vous voulez le secours du médecin, il vous faut lui découvrir votre mal. Donc il est nécessité, dit saint Thomas, de salut pour que l'homme reçoive du médecin le remède à ses péchés, et par conséquent aussi qu'il découvre son mal par la confession. Si vous n'accusez pas votre état de physique au médecin, comment voulez-vous qu'il devine quel médicament il doit vous donner? Donc le pécheur qui est le coupable ne peut pas être son propre juge, mais doit être jugé par un autre, et par conséquent, il doit se confesser. Donc on peut répondre, si vous voulez, que la confession est nécessaire au salut pour une personne qui a commis un péché mortel. Bon, bien que Dieu puisse concéder dans sa miséricorde une contrition parfaite à une personne qui est dans un état de péché mortel. Et la contrition parfaite efface tous les péchés. Donc voilà ce que saint Thomas explique. La rémission du péché actuel et du péché originel exige l'action d'un sacrement de l'Église réellement reçu, ou du moins désiré, quand la nécessité des circonstances et non point le mépris exclut la réception réelle du sacrement. Par exemple, parce qu'il n'y a pas de prêtre. On peut expliquer avec une comparaison. C'est pareil pour le baptême de désir. L'Église catholique a toujours enseigné l'existence d'un baptême de désir. Bon. Donc vous pouvez avoir un désir de baptême si vous n'êtes pas baptisé vous-même. Un grand désir de baptême, c'est le cas d'un catéchumène qui se prépare à recevoir le baptême, et bon, il a un certain nombre de cours à suivre avec le prêtre qui s'occupe de lui avant de pouvoir être baptisé. Il a un désir de du sacrement de baptême. Mais il ne pourrait pas dire, bon, j'ai le désir du sacrement de baptême, donc ça suffit, je n'ai pas besoin d'être baptisé puisque j'ai le désir. Non. Le baptême de désir efface le péché originel et tous les péchés s'il n'est pas possible pour cette personne, à cause des circonstances, de recevoir un baptême d'eau. Mais s'il peut recevoir un baptême d'eau, il doit le recevoir. Donc quelqu'un qui aurait un baptême de désir, mais qui ne prendrait pas les moyens qu'il pourrait utiliser très facilement pour recevoir un baptême d'eau, pécherait gravement. Donc les sacrements, dit saint Thomas, qui ont pour objet la rémission d'une faute incompatible avec le salut, sont de nécessité de salut. De même que le baptême qui efface le péché originel est de nécessité de salut, ainsi en va-t-il du sacrement de pénitence. Cependant, il faudrait rajouter que le sacrement de pénitence n'est pas de nécessité de salut pour quelqu'un qui n'a jamais commis de péché mortel. Quelqu'un qui n'a sur la conscience que des péchés veniels, pour lui, strictement parlant, le sacrement de pénitence n'est pas un sacrement nécessaire au salut. Par contre, s'il est en état de péché mortel, c'est autre chose. Donc, c'est la conclusion de saint Thomas. La confession est de nécessité de salut pour celui qui est tombé dans le péché mortel actuel. De même que le baptême est de nécessité de salut pour toute personne qui a le péché originel. Quant au péché actuel, dit saint Thomas, que chacun commet en son propre mouvement, il ne peut être expié sans que celui qui a péché coopère à cette expiation. Cependant, le pécheur ne peut pas de lui-même suffire à l'expiation, comme il a suffi au péché. Car si le péché est quelque chose de fini du côté du mouvement de conversion par lequel le pécheur se replie sur lui-même, il a quelque chose d'infini du côté du mouvement d'aversion à l'égard de Dieu. On a offensé par le péché mortel un Dieu infini. Donc il y a un mal infini, un malheur infini dans le péché. Et on voit toujours la même technique de saint Thomas de répéter les mêmes choses tout le temps, pour être sûr que ça finisse par rentrer dans les esprits. Alors, la question 6, article 2 du supplément, il se pose la question, la confession est-elle de droit naturel? Donc là, il voit ce qu'il dit. Bon, il utilise saint Isidore, qui explique que la confession ne se trouve pas de la même façon chez tous les hommes. Donc elle n'est pas de droit naturel. De plus, la confession se fait à celui qui a le pouvoir des clés, c'est-à-dire le prêtre. Le pouvoir des clés n'est pas dans l'Église une institution de droit naturel, donc pas plus la confession. Donc les sacrements, qui sont des protestations de foi, doivent être par conséquent proportionnés à la foi. Or, la foi est au-dessus de notre connaissance de raison naturelle. Par conséquent, les sacrements sont au-dessus des intimations de la raison naturelle. On est dans le domaine de la foi qui surpasse la raison. La confession qui est de nécessité sacramentale n'est pas de droit naturel, mais de droit divin. C'est pour ça que toutes ces choses ne peuvent être modifiées par un pape. Un pape n'a aucune autorité pour modifier le sacrement donné par Dieu. Bien sûr que non. Alors, est-ce que cette confession est obligatoire pour tous? Article 3, la question 6 du supplément. Donc, saint Thomas cite saint Jérôme, la pénitence est une seconde planche après le naufrage. Première planche, c'est le baptême. Deuxième planche, le salut, c'est le naufrage. Alors, il cite les canons. Tous les fidèles de l'un et l'autre sexe, dès qu'ils sont arrivés à l'âge de discrétion, c'est-à-dire l'âge de raison, sont tenus de confesser leurs péchés. Alors, nous sommes obligés d'aborder le droit divin en tant que les médecines morales, et à ce titre, ceux-là seuls y sont tenus qui ont commis le péché mortel après le baptême. Donc, quelqu'un qui a commis un péché mortel est tenu
est obligé d'utiliser le sacrement de pénitence. Mais nous y sommes aussi obligés par le droit positif, parce que tous les fidèles sont obligés, en vertu de la loi portée par le Concile général, de se confesser au moins une fois par an. C'est le cas, c'est pour cela qu'on en parle de la confession pascale, qui doit être faite par tous les catholiques en âge de se confesser une fois par an, au moins, c'est bien le minimum, pendant le temps pascal. Temps pascal, ça dépend selon les périodes, selon les diocèses en général, c'est depuis le dimanche des Rameaux jusqu'au premier dimanche après Pâques. Alors saint Thomas explique un peu plus la question. Bien que l'homme puisse éviter en cette vie mortelle le naufrage du péché mortel après le baptême, il ne peut pas éviter les péchés véniels qui le disposent au naufrage et auxquels la pénitence doit aussi porter remède. La pénitence est par conséquent la confession, donc encore leur utilité, même pour ceux qui ne pêchent pas mortellement. Ça, c'est pour répondre à l'objection de ceux qui disent « Moi, j'ai commis que des péchés véniels, donc j'ai plus besoin de me confesser. » Non, les péchés véniels, il faut aussi les enlever, et les péchés véniels, ils disposent au péché mortel. Donc, si je garde dans mon âme des péchés véniels non pardonnés, je garde une disposition dans mon âme à pécher mortellement. C'est un risque que je n'ai pas le droit de prendre. Alors, on peut dire, c'est vrai, que cette obligation de confession en soi n'oblige que ceux qui ont des péchés mortels, mais la pénitence, le sacrement de pénitence, porte aussi remède au péché véniel qui dispose au naufrage, la coupure de la victure. Alors, certains, c'est un peu discuté entre les théologiens, c'est ce que dit ici saint Thomas, on peut dire avec certains théologiens que les décrétales, les canons de l'Église, n'obligent à la confession que ceux qui ont des péchés mortels. Bon. Cela ressortirait de ce qu'elle déclare, qu'on doit confesser tous ses péchés, ce qui ne peut s'entendre des péchés véniels, puisque personne ne peut les confesser tous. D'après cette opinion, celui qui n'a pas de péché mortel n'est pas tenu à la confession des péchés véniels. Il lui suffit, pour accomplir le précepte de l'Église, de se présenter au prêtre et de déclarer qu'il n'a conscience d'aucun péché mortel, ce qui lui donne lieu de confession. Personnellement, je conseillerais à tous les catholiques au moins de se confesser une fois par an, c'est bien minimum. Mais en fait, dans le monde moderne, on a besoin de se confesser beaucoup plus souvent. Article 4, un sujet un peu bizarre, est-il permis de confesser un péché qu'on n'a pas commis? Bon, j'ai suffisamment de problèmes avec les péchés commis, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont tentés d'accuser des péchés qu'ils n'ont pas commis, peut-être les scrupuleux. Bon. Alors saint Thomas répond tout simplement en disant que quiconque dit avoir fait ce qu'il n'a pas fait commet un mensonge. Mais personne ne doit mentir en confession puisque tout mensonge est un péché. Donc personne ne doit confesser un péché qu'il n'a pas commis. Donc on n'a pas le droit d'accuser en confession un péché non commis. Alors nous avançons dans cette partie de la somme. Article 5 de question 6 du supplément. Le pécheur est-il tenu de se confesser immédiatement? Bon, c'est-à-dire le plus tôt possible après le péché mortel. Alors, il donne l'exemple de la Sainte Eucharistie pour répondre à cette question. Parce que les saint Thomas, dans les décrétales, les canons de l'Église, on fixe en même temps une date pour la confession et la réception de la Sainte Eucharistie. Or, on ne pêche pas en ne recevant pas la Sainte Eucharistie avant le temps ainsi déterminé par le droit. On ne pêche donc pas non plus en ne se confessant pas avant cette même date. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a commis un péché mortel doit se confesser au plus tôt. Bon. Personnellement, quand je suis comme prêtre, j'utilise beaucoup ce point quand je confesse des gens. Je veux savoir si la personne a suffisamment de contrition. Je demande, quand ils accusent de péché mortel, je dis, mais il y a combien de temps que vous avez commis ce péché mortel? Bon. Si la personne me répond, par exemple, j'ai commis ce péché mortel il y a 6 mois, alors là, je suis obligé de leur tirer un peu les oreilles, gentiment, en leur disant, mais attendez, vous êtes resté 6 mois dans le péché mortel, c'est de la folie. Ça, c'est un péché grave de présomption. Sauf dans un cas où ces personnes se seraient retrouvées dans l'incapacité de trouver un prêtre pendant 6 mois. Mais si quelqu'un a commis un péché mortel, il doit se confesser au plus tôt. Je dis toujours, si vous n'avez pas eu de honte pour commettre un péché mortel, n'ayez pas de honte pour l'accuser au plus tôt. Donc n'attendez pas, allez vous confesser au plus tôt. Donc j'apprécie quand je vois des fidèles qui se confessent, après un péché mortel par exemple, et qui se confessent très vite. Bon. Si une personne me téléphone, monsieur l'abbé, j'ai besoin de me confesser, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me confesser assez vite? Je dis, oui, ben, venez tout de suite. Et puis je les confesse immédiatement dès leur arrivée dans mon bureau, dans mon confessionnal, et je les confesse tout de suite, c'est évident. Bon, quand je vois quelqu'un qui fait des kilomètres pour venir se confesser immédiatement après son péché grave, ça prouve qu'il y a la contrition de son péché. Par contre, si je vois quelqu'un qui a commis un péché grave et qui reste pendant des mois, alors qu'il a la possibilité de se confesser, mais qu'il n'en profite pas, qu'il ne se confesse pas pendant plusieurs mois, en général, ça prouve qu'il n'a pas de contrition, pas assez de contrition pour ses péchés. Donc, saint Thomas explique qu'on est obligé, par accident, alors attendez, je reprends un petit peu le texte, quant à la réalisation de cette volonté de se confesser, on peut y être obligé de deux façons. On y est obligé premièrement par accident, à cause d'une autre obligation. Quand on est tenu à une action qu'on ne peut faire sans péché à moins de se confesser. C'est-à-dire qu'on est tenu de se confesser quand on doit recevoir la Sainte Eucharistie. Personne ne devant se présenter à la communion après un péché mortel sans s'être confessé, si on a le confesseur à sa disposition et s'il n'y a pas urgente nécessité de communier. C'est le cas par exemple d'un prêtre. Un prêtre qui est tenu, qui en principe dit sa messe tous les jours, ou un curé par exemple, qui a eu le malheur de commettre une faute grave le samedi, l'après-midi, il doit célébrer la messe pour ses fidèles le dimanche, mais il a l'obligation de se confesser, ou plutôt s'il a la possibilité d'avoir un prêtre le samedi après-midi. De là vient l'obligation que l'Église a imposée à tous les fidèles de se confesser au moins une fois l'an, ayant porté cette loi que tous les fidèles se présenteraient au moins une fois l'an à la communion, tant de Pâques, qu'elle oblige donc tous les fidèles à se confesser avant cette communion. Cependant, il est tout à fait déconseillé de se contenter de la confession de la communion pascale. La communion pascale est importante, c'est sûr, mais je pense que par les temps qui courent, on a besoin de la communion le plus souvent possible. Donc essayez de communier tous les dimanches. Et même pour ceux qui peuvent venir en messe, assister à la Sainte Messe en semaine, n'hésitez pas à venir communier aussi pendant la semaine. Alors, l'homme étant tenu de poser en cette vie les actes qui sont nécessités de salut, il sera obligé d'une obligation qu'on peut dire résultant de la nature même du sacrement, se confesser comme à recevoir le baptême dès qu'il se trouvera en péril de mort. Donc quand on est atteint de péché mortel, on est en péril de mort spirituelle, donc il faut se confesser au plus tôt. C'est la règle de l'Église. Article 6, question 6 du supplément. Est-il possible qu'un pécheur soit dispensé de se confesser? Personne ne peut se dispenser du baptême, donc personne ne pourra non plus se dispenser de la confession. Bon, il peut y avoir des cas exceptionnels. Bon. Il est évident que il peut y avoir par exemple des cas d'impossibilité. Vous êtes un étranger, vous souhaitez vous confesser, vous n'arrivez pas à trouver un prêtre qui puisse vous confesser dans votre langue. Il parle une langue que vous ne connaissez pas du tout. Bon, ça vous autorise d'une certaine façon à éloigner le temps de la confession pour que vous puissiez trouver un prêtre qui vous comprenne, par exemple. Il n'appartient donc pas au ministre de l'Église de poser des nouveaux articles de foi et d'écarter ceux qui sont déjà promulgués. Et d'instituer de nouveaux sacrements, supprimer ceux qui ont été institués. Tout cela relève du pouvoir d'excellence qui n'est dû qu'au Christ, fondement de l'Église. C'est pourquoi. De même que le pape ne peut pas donner une dispense qui permette aux catéchumènes de faire son salut sans le baptême, ainsi ne peut-il pas donner une dispense de confession de telle sorte que le pécheur puisse se sauver sans satisfaire l'obligation qui résulte de la nature même du sacrement de pénitence. Mais il peut dispenser la confession en tant qu'elle nous est imposée par un précepte de l'Église et permettre qu'un pénitent diffère sa confession au-delà du temps fixé par la loi ecclésiastique. Bon, c'est le cas aussi, par exemple, ça m'est déjà arrivé à l'hôpital, d'être appelé par malade à l'hôpital, et puis je peux pas être seul avec lui, je n'arrive pas à trouver un, je peux pas, le malade peut pas se déplacer, par exemple, parce qu'il est sous perfusion, je ne sais quoi, et puis il y a plein de monde autour, il y a d'autres malades juste à côté, et dans certains cas, surtout si le malade parle très fort, je peux pas lui demander de faire une confession publique. Et donc, je vais essayer de à ce moment, ce que je fais, je lui prends la main, par exemple, et je lui dirai, voilà, je vous pose toutes les questions, et si la réponse est positive, vous pressez ma main avec la vôtre. Comme ça, je saurai que la réponse est positive. Il n'y a que moi qui comprends la réponse à la question, même si les gens autour peuvent entendre les questions que je pose aux pénitents. Allons à la question 7, supplément. Question 7, les éléments essentiels de la confession. Hein? Alors, il va citer d'abord une citation de saint Augustin. La confession, la manifestation d'une maladie cachée motivée par l'espoir du pardon. Bon, manifestation d'une maladie cachée, évidemment, médecin spirituel qui est le prêtre. Donc, la confession des péchés est l'acte par lequel on en découvre et ouvre la blessure. Donc, il est évident pour qu'une confession soit valide, j'ai déjà expliqué, en suivant le catéchisme, il faut trois choses, il faut la contrition, l'accusation et la réparation. Alors, saint Thomas explique, dans l'acte de la confession, il y a plusieurs choses à considérer. D'abord, la substance même de l'acte constitutif de ce genre d'action, qui est une certaine manifestation. Deuxièmement, l'objet de cette manifestation, à savoir le péché. Troisièmement, la personne à qui elle se fait, le prêtre. Quatrièmement, sa cause, l'espoir de pardon. Et cinquièmement, son effet, l'absolution d'une partie de la peine et l'obligation de payer l'autre partie. Donc, il faut accuser ses péchés, manifester donc par son accusation une contrition extérieure, pour manifester son regret de l'avoir commis. Et cette manifestation doit être faite à quelqu'un qui a le pouvoir de pardonner, à savoir le prêtre. Et de avec l'espoir de recevoir de ce prêtre l'absolution au moins d'une partie de la faute et d'une partie de la peine, quitte à devoir payer par moi-même l'autre partie par les pénitences que je dois faire après la confession. C'est dans la contrition qu'est donnée la charité, tandis que la crainte servile, qui est sans espérance, précède la charité. Donc la contrition parfaite est ce qui est le plus important. On cherche toujours à obtenir la contrition parfaite. Je dis toujours aux traitants, dans les retraites, les exercices saint Ignace, si l'unique raison pour laquelle vous évitez le péché mortel, c'est la crainte de Dieu, la crainte de l'enfer, vous n'allez pas rester en état de grâce longtemps. Vous resterez en état de grâce longtemps avec la grâce du bon Dieu si vous regrettez vos péchés par amour de Dieu. Article 2. La confession est-elle un acte de vertu? Alors, voilà ce que dit saint Thomas, donc c'est la question 7, article 2 du supplément. Alors, saint Thomas va répondre en disant que cette confession est un acte de vertu. La manifestation de ce que nous gardons dans notre conscience nous permet de mettre en accord la bouche et le cœur. C'est bien à la vertu qu'il appartient de faire que quelqu'un confesse de bouche ce qu'il a dans le cœur. La confession est donc un acte de vertu. Cette confession est un acte en fait de la vertu de pénitence. C'est l'article 3 de la question 7 du supplément. La pénitence a pour objet la destruction du péché. Alors, c'est là précisément l'objet de la confession qui est donc bien un acte de pénitence. Donc, le sacrement de pénitence est un acte de la vertu de pénitence. Alors, saint Thomas précise les choses. Comme la confession procède plus de l'espérance que de la crainte, ainsi qu'on l'a dit, elle s'appuie beaucoup plus sur l'article de la vie éternelle qui donne à l'espérance son objet que sur l'article du jugement dont la crainte se préoccupe. Donc, il faut, avec la grâce du bon Dieu, beaucoup plus s'appuyer sur la miséricorde du bon Dieu que de craindre la justice de Dieu. Dieu ne demande qu'une seule chose, s'exercer sa miséricorde à partir du moment où on regrette son péché. Et Dieu est bien plus grand en exerçant sa miséricorde qu'en exerçant sa justice. À la question 8, saint Thomas va parler du ministre de la confession. Non, Vous savez que seul le prêtre a ce pouvoir de confession. Donc tous les prêtres, les évêques qui sont prêtres, évidemment, le pape est bien entendu. Donc il est nécessaire de se confesser à un prêtre. Bon. L'absolution du pénitent, à cause de laquelle se fait la confession, n'est donnée que par des prêtres auxquels a été confié le pouvoir des clés. C'est donc au prêtre que doit se faire la confession. Donc la grâce qui est donnée dans les sacrements descend de la tête dans les membres. Et celui-là seul est le ministre des sacrements qui a pouvoir ministériel sur le vrai corps du Christ. Or cela n'appartient qu'au prêtre, qui peut aussi consacrer l'Eucharistie. La grâce étant donc conférée dans le sacrement de pénitence, le prêtre seul en est le ministre, et c'est en conséquence à lui seul que doit se faire la confession sacramentelle, puisqu'elle doit être faite à un ministre de l'Église. Alors évidemment, les féministes n'aiment pas beaucoup ça, et prétendent que il n'est pas normal que seuls les hommes puissent devenir prêtres. Il est évident que si notre Seigneur Jésus-Christ avait voulu que les femmes puissent devenir prêtres, il aurait demandé à sa mère, notre Sainte Vierge Marie, de devenir prêtre. Il ne l'a pas fait. Les femmes ont un rôle différent, hein, qui est irremplaçable, mais seul le prêtre a le pouvoir des clés. Alors continuons avec l'enseignement de Saint Thomas. Vous voyez que ces textes, bien qu'ils soient du supplément, sont magnifiques et aident à comprendre l'importance de la confession. Alors, est-il permis, dit Saint Thomas, de se confesser à d'autres qu'à des prêtres? C'est la question 8, article 2 du supplément. Le ministre officiel auquel on doit faire la confession est le prêtre. Donc, si on se trouve dans un cas d'absolue impossibilité de trouver un prêtre, bon, je dirais on pourrait à la rigueur accuser ses péchés à un laïc de confiance comme un moyen de manifester extérieurement le regret de ses péchés passés. Et c'est un acte héroïque, parce que c'en est un, de ce genre, pourrait permettre d'obtenir l'acte du bon Dieu, la grâce d'un acte de contrition parfaite. Donc le bon Dieu pourrait suppléer, parce que Dieu est souverain prêtre, il pourrait suppléer, et cette confession faite à un laïc, à défaut de prêtre, est encore d'une certaine façon sacramentelle, bien que ce ne soit pas un sacrement complet, parce qu'il lui manque ce qui doit venir du prêtre. Cependant, le bon Dieu, dans sa miséricorde, pourrait très bien pardonner les péchés. Imaginez, pardonner les péchés à quelqu'un qui a l'impossibilité physique de trouver un prêtre. Imaginez, pendant une guerre, il y a eu des tas de cas, d'ailleurs, dans la Deuxième Guerre mondiale, de soldats qui venaient d'avoir une pièce de schnappel ou une pièce de bombe ou une balle dans le corps, qui sentaient qu'ils allaient mourir et qui disaient à leurs soldats voisins « je voudrais me confesser ». Et puis parfois, il n'y a pas de prêtre autour, en plein combat, comme on veut trouver un prêtre. Et parfois, spontanément, la personne mourant déclarait ses péchés au laïc qui était à côté, au soldat qui était à côté, qui ne pouvait bien sûr pas lui donner l'absolution, mais qui avait entendu déjà quand même la confession, et ça libérait d'une certaine façon le poids des péchés de cette personne. Et dans un cas comme ça, le bon Dieu pourrait très bien concéder à cette personne mourante la grâce d'un acte de contrition parfaite. C'est évident que dans un cas comme ça, le laïc qui a entendu la confession d'un mourant est tenu au secret de confession. Donc, celui qui s'étant confessé un laïc en cas de nécessité a obtenu son pardon de Dieu parce qu'il a réalisé comme il a pu sa résolution de se confesser selon l'ordre de Dieu n'est pas encore réconcilié avec l'Église. De sorte qu'il puisse être admis au sacrement de l'Église avant d'avoir été absous par un prêtre. Il en est de son cas, comme du cas de celui qui n'étant baptisé que du baptême de désir, n'est pas admis à la Sainte Communion. Il faut donc qu'il se confesse de nouveau un prêtre quand il en aura la facilité, étant donné surtout que le sacrement n'a pas été parfait et qu'il doit l'être pour qu'on reçoive l'effet plénier du sacrement de pénitence et qu'on accomplisse la loi qui prescrit de recevoir le sacrement de pénitence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'imaginez encore une fois quelqu'un qui a un acte, qui a un baptême de désir, mais qui n'est pas encore baptisé, Il n'a pas terminé sa formation, par exemple, de catéchumène. Il ne peut pas encore communier, il faut qu'il attende, parce qu'il n'est pas encore baptisé, même s'il a un baptême de désir. Est-ce qu'en dehors d'un cas de nécessité, quelqu'un qui n'est pas prêtre peut entendre la confession des péchés véniels? C'est l'article 3 de la question 8. Voilà ce que dit saint Thomas. Donc, le péché véniel ne nous sépare ni de Dieu ni de l'Église. Nous n'avons donc pas besoin pour son pardon de recevoir à nouveau la grâce sanctifiante ni d'être réconciliés avec l'Église. Et en conséquence, il n'est pas requis que nous confessions à un prêtre nos péchés véniels. Bon. C'est pour ça que les péchés véniels peuvent être effacés par n'importe quel acte de charité. Par exemple, la simple utilisation de l'eau bénite à l'entrée de la chapelle, un chemin de croix, une prierre à la très sainte Vierge Marie, le rosaire, un simple acte de charité à l'égard du bon Dieu, ben, ça peut déjà en soi effacer les péchés véniels. Comme la confession faite à un laïc est elle-même quelque chose de sacramentel, bien qu'elle ne soit pas sacrement achevée, et comme elle est aussi un acte procédant de la charité, il est du genre de ces actes qui, de par leur nature, sont moyens de rémission des péchés véniels, ainsi qu'il en va de l'acte de se frapper la poitrine, l'aspersion de l'eau bénite. Pour ça, par exemple, la simple récitation de l'acte du confiteur au début de la messe ou avant la communion peut effacer les péchés véniels. C'est pour ça que les fidèles récitent avant de communier à la Sainte Messe, ils récitent pendant que le prêtre consomme le contenu du calice, donc il récite l'acte de contrition, pas l'acte de contrition, le confiteor. Pourquoi? Parce que ce confiteor est un acte de charité déjà, qui va effacer les péchés véniels, les péchés de faiblesse, qui ont été commis pendant la messe, péchés de distraction par exemple, qui sont inévitables. Article 4 de la question 8, est-il nécessaire qu'on se confesse à son propre prêtre? Alors voilà ce que répond saint Thomas. Alors, seul peut nous commander qui a sur nous juridiction. Ce sacrement requiert donc de toute nécessité que son ministre ait non seulement le pouvoir d'ordre, mais aussi celui de juridiction. En conséquence, de même que celui qui n'est pas prêtre peut conférer le sacrement, si celui qui n'a pas juridiction ne peut-il pas non plus. Donc un prêtre qui n'a pas le pouvoir de juridiction ne peut pas confesser. Deux pouvoirs qui sont donnés par le sacerdoce, pouvoir d'ordre, pouvoir de juridiction. Bon. On verra plus tard, on a déjà vu en partie déjà dans la Somme, que par exemple, à partir du moment où un laïc demande la confession à un prêtre, ce qu'on appelle l'erreur commune, qui donne déjà de juridiction au prêtre qui éventuellement n'aurait pas l'absolu, n'aurait pas la juridiction. Alors, nous verrons aussi que nous sommes en état de guerre, et qu'il est évident que dans l'état de guerre actuel, dans le modernisme actuel qui a tout envahi dans l'Église de Vatican II, mais il est évident que l'Église, dans ce cas-là, concède aux prêtres des juridictions extraordinaires. Donc je n'ai pas une juridiction ordinaire pour confesser, mais j'ai une juridiction extraordinaire pour confesser à cause des circonstances. Donc, ce serait un péché pour le prêtre de ne pas se montrer facile à donner la permission de se confesser à d'autres. C'est-à-dire qu'en soi, vous pouvez vous confesser à tout prêtre ayant juridiction. Quelqu'un qui est véritablement prêtre, évidemment, vous n'allez pas vous confesser à un prêtre de l'Église de Vatican II qui est n'importe quoi, surtout s'il n'a pas été ordonné avant 1968, qu'il a été ordonné avec un nouveau rituel de 68 et ordonné par un évêque qui a été lui-même consacré évêque avec un nouveau rituel de 68. À ce moment-là, vous êtes pratiquement sûr de vous confesser à laïc. Mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est évident. Mais en soi, un prêtre, même un curé, ne peut pas refuser qu'un de ses pénitents habituels se confesse à un autre prêtre. Je disais toujours, quand je prêchais les exercices, quand j'étais dans une grosse maison de retraite à Richfield, aux États-Unis, je disais toujours à mes fidèles habituels, c'est aussi une paroisse de 300 personnes, les personnes qui se confessent habituellement à moi, vous êtes parfaitement libre de vous confesser à un autre prêtre pendant les retraites. Vous n'êtes pas obligé de vous confesser à moi, vous n'êtes pas obligé de faire votre confession générale à votre curé habituel. Bon, c'est la même chose pour toute situation, si vous voulez. En soi, après un péché mortel, vous pouvez vous confesser à n'importe quel prêtre ayant juridiction, au moins extraordinaire. Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Le simple prêtre peut donner à son paroissien la permission de se confesser à un autre prêtre, à plus forte raison, son supérieur le peut-il. Donc un prêtre peut être empêché d'entendre les confessions pour deux raisons, soit par défaut de juridiction, soit à cause de l'empêchement lui interdisant l'exercice de son ordre. Comme par exemple l'excommunication, la dégradation, quelque chose de ce genre. Alors, en conclusion de cet article, voilà ce que dit saint Thomas. Il est donc bon que celui qui entend une confession par délégation de l'autorité épiscopale invite son pénitent à se confesser au propre prêtre, mais en cas de refus, il doit tout de même l'absoudre. Donc, je ne pourrais pas refuser l'absolution, que quelqu'un me dirait, monsieur l'abbé, je regrette mes péchés, je prends les moyens de ne pas recommencer, mais il n'est pas question que je me confesse à mon prêtre habituel parce que je ne veux pas me confesser à lui. Bon. Parce qu'il est trop dur ou parce que je sais trop quoi. Je n'aurai pas le droit dans ce cas de lui refuser l'absolution et je dois l'absoudre. Article 6, dans la question 8. Tout prêtre peut-il absoudre un pénitent à l'article de la mort? Alors voilà ce que dit saint Thomas. La nécessité spirituelle est plus exigeante que la nécessité matérielle, la nécessité du corps. Or, en cas d'extrême nécessité, on peut subvenir aux besoins de son corps en se servant du bien des autres, même contre la volonté des légitimes propriétaires. On peut donc aussi, à l'article de la mort, pour subvenir à une nécessité spirituelle, donner l'absolution sans être le propre prêtre du pénitent. Donnons un exemple tout simple. Vous êtes pris par une tempête de neige en pleine montagne, vous êtes en train de mourir de froid. Est-ce que vous avez le droit de pénétrer par force dans un chalet que vous venez de découvrir pour pas mourir de froid? Chalet vide, il n'y a pas de propriétaire sur place, je frappe, il n'y a personne. Est-ce que j'ai le droit de débloquer un volet et de casser une vitre, même éventuellement, pour rentrer, me protéger du froid, pas mourir de froid? Oui. C'est la vertu de justice. Mais c'est la même chose pour la pénitence, le sacrement de pénitence. Donc, comme la nécessité n'a pas de loi, si le cas de nécessité se présente, la loi de l'Église n'empêche plus que le prêtre absolve même sacramentellement, dès lors qu'il a la puissance des clés, cette absolution du prêtre étranger vaut autant que celle du propre prêtre. Et non seulement tout prêtre peut alors absoudre du péché, mais il peut absoudre aussi de l'excommunication, quelle que soit celui qui l'a porté, car cette absolution relève aussi de la juridiction dont la limite vient d'une loi ecclésiastique. Bon, ça c'est du droit canonique. Il est évident qu'en cas de danger de mort, le prêtre, tout prêtre peut absoudre l'Église en général, relève même de toutes les censures. Un prêtre, pour qu'il puisse donner l'absolution à un mourant, à quelqu'un à l'article de la mort. Alors, il précise, de là vient que celui qui se confesse un laïc, bien qu'il fasse de son côté tout ce qu'il peut pour la confession sacramentelle, n'obtient cependant pas l'absolution sacramentelle. Cette confession lui vaut donc une diminution de peine de par le mérite et la peine de la confession, mais il n'obtient pas cette diminution de peine qui vient de la vertu des clés. En conséquence, il doit de nouveau se confesser un prêtre, et celui qui meurt s'étant confessé un laïc recevra après cette vie une peine plus grande que si c'était confessé un prêtre. Donc il y a l'obligation de se confesser un prêtre pour un mourant, s'il y a un prêtre sur place, c'est évident. S'il n'y a pas de prêtre, alors il n'y a plus qu'à demander la grâce d'un acte de contrition parfaite. Alors, terminons avec l'article 7 de la question 8. La peine temporelle à imposer doit-elle être proportionnée à la gravité de la faute? Donc voilà ce que dit saint Thomas. Donc il donne d'abord des exemples en disant que d'après les canons de l'Église, on impose 7 ans de pénitence à un laïc pour l'homicide et 10 ans à un prêtre pour la fornication. Ça c'était les pénitences anciennes. Donc la gravité de la sentence et de la punition du péché répond donc à la gravité de la faute. La peine après le pardon de la faute est exigée pour deux motifs, pour l'acquis de la dette du péché et comme remède. Donc le prêtre a le devoir de proportionner la pénitence qu'il donne à ce qui a été fait. C'est évident que ce serait par exemple pas du tout normal pour un prêtre qui entend une dame qui s'accuse en confession du péché d'avortement, donc du meurtre d'un enfant dans son sein, Il ne s'agirait pas de dire, bon, ben vous direz 3 jours, vous salue Marie. Il est évident, dans des péchés d'une gravité pareille, eh bien, il faut quand même que la peine donnée par le prêtre, donc la réparation, soit proportionnée. Donc, dans un cas comme ça, le prêtre impose un peu plus. Donc, quand j'entends les confessions des retraites, à cause des confessions générales, en général, je donne comme pénitence, soit de réciter un chapelet, soit de dire un chemin de croix, soit de lire par exemple le texte complet de la Passion. Vous voyez, il faut marquer le coup. Et même dans certains cas, on pourrait même donner des pénitences plus sérieuses dans certains cas de péchés gravissimes, par exemple les péchés contre nature. Il faut bien sûr pardonner si la personne regrette ses péchés. Imaginez quelqu'un qui me dise, Monsieur l'abbé, je m'accuse de péché contre nature, parce que je suis un sodomite, qui me promet qu'il change de vie, qu'il va vivre chastement. Bon, il va recevoir l'absolution, bien entendu, mais d'un autre côté, vu la gravité de ces péchés qui crient vengeance contre le ciel, il est évident que le prêtre doit imposer une peine plus importante. Il faut donc tenir compte, dit saint Thomas, de tous ces points de vue, quand on doit fixer la peine au tribunal de la pénitence, et par conséquent, ne pas toujours imposer une peine plus grave pour un péché plus grave. Il n'y a d'ailleurs que la peine du purgatoire qui soit exclusivement expiatrice, puisqu'il n'y a plus de possibilité de péché à l'avenir. Et c'est pourquoi cette peine ne sera mesurée qu'à la gravité du péché, en tenant compte cependant de la mesure d'expiation déjà donnée par la contrition, la confession, l'absolution. Car en tous ces actes, il y a déjà une certaine rémission de la peine, ce dont le prêtre doit tenir compte dans l'imposition de la pénitence. Donc c'est là où le prêtre doit utiliser les grâces de son sacerdoce pour savoir quelle pénitence accusé à la personne en question. Toute chose égale d'ailleurs, dit saint Thomas, le péché de l'homme est plus grave dans la loi nouvelle que dans l'ancienne, à cause de la sanctification plus grande reçue au baptême et des bienfaits meilleurs offerts par Dieu au genre humain. Voilà, bon, je vais arrêter là pour cette fois-ci. Nous continuerons la prochaine fois si Dieu veut, donc vendredi prochain. Avec la question 9 sur les qualités de la confession. Je vous rappelle que je mets des conférences en avance sur le site pour que vous ayez, ceux qui veulent travailler régulièrement, vous ayez toujours une conférence tous les vendredis à écouter sur saint Thomas d'Aquin. Je rappelle aussi, pour ceux qui s'intéressent, que j'ai encore quelques places pour les 2 dernières retraites de l'année, que je prêche ici, donc près de Gap, une au mois de septembre. Donc du 23 au 28 septembre et une au mois d'août, du 14 au 19 août. Non, pardon, je me trompe. Je vous répète, septembre du 23 au 28 septembre et octobre du 14 au 19 octobre. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit.